Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
D'une touche de Dieu. Quelques personnes, gloire à Dieu. Mais moi, je crois que Dieu veut toucher tout le monde. Que vous soyez malade, que vous soyez en santé, Dieu veut toucher tout le monde. Alors, on va préparer nos cœurs maintenant pour l'enseignement de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui change des vies. On veut te remercier, Seigneur, pour ton onction qui brise le joug. On veut te remercier également, Seigneur, pour la révélation de ton esprit que tu nous donnes ce matin, pour qu'on puisse saisir les vérités, Seigneur, de ta parole qui change nos vies. Et Seigneur, on veut prier également pour ceux à la radio aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, Seigneur, via l'Internet, les gens en Afrique, les gens en Europe, Seigneur, ce matin, on veut les bénir également. On te remercie, Seigneur, que ton onction les touche également là où ils sont. On sait qu'il n'y a pas de distance dans la prière et que ta présence est là même avec eux. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va commencer la série qui s'intitule « Une école de guérison ». Il y a 4 sessions. C'est la première fois qu'on le fait comme ça. Quand j'étais évangéliste et je me promenais d'église en église, j'avais l'opportunité d'enseigner pendant juste 1 heure l'enseignement sur la guérison divine. Mais cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement vous donner quelque chose en surface, mais on veut aller en profondeur. Parce que savez-vous, c'est important d'être en santé, n'est-ce pas? On peut parler de plein de choses, mais si on est malade et à la maison, bien, on peut pas être actif pour servir le Seigneur. Certainement, à la maison, on peut prier, on peut faire des choses quand même dans l'intercession, mais c'est beaucoup mieux quand on peut se lever de notre lit, sortir et faire quelque chose, être actif. Amen. Et au Québec, on a besoin de vivre une révolution dans l'enseignement de la guérison divine. Parce que même, pas juste au Québec, mais partout en Amérique du Nord, il y a toutes sortes d'enseignements qui circulent concernant la guérison et concernant la maladie, comme quoi la maladie, c'est l'école du Saint-Esprit pour les chrétiens. Si vous ne saviez pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui croient aujourd'hui que le plus qu'ils sont malades, le mieux que c'est et le plus que le Seigneur travaille dans leur cœur. Mais ce matin, on va voir plein de choses comme quoi c'est pas vrai ça. Dieu veut qu'on soit guéri, Dieu veut qu'on soit en santé, et Dieu nous a montré clairement sa volonté dans la parole de Dieu concernant son désir pour ses enfants d'être en pleine santé. Et vous savez, l'enseignement d'aujourd'hui, on va essayer de faire ça en dedans d'une heure, et même moins que ça, mais je peux vous dire que parfois, des enseignements comme ça, c'est 1 heure, 2 heures sans break, sans arrêt, là, sans arrêt. Les gens, habituellement, sont là pendant 2 heures et reçoivent l'enseignement sur la guérison divine. Et par la suite, on prie pour les malades et on voit des malades de guéris parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le plus qu'on reçoit, le plus que notre foi est bâtie, on prie pas pour avoir plus de foi. C'est pas le modèle biblique. Si vous manquez la foi, savez-vous, vous avez tous la foi. Dieu vous a tous donné une mesure de foi, mais c'est pas une question, Seigneur, donne-moi plus de foi. Non, c'est, je dois me mettre en position pour entendre le message, pour que ma foi grandisse. Donc, la foi ne vient pas en priant, la foi vient en ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Alors, si on entend la parole de Dieu, notre foi est nourrie, notre âme spirituelle, notre esprit est nourri, et on grandit dans la foi. Donc, c'est très important, si vous voulez être guéri, vous voulez marcher dans la santé divine, pas juste être guéri une fois de temps en temps, mais de marcher en santé, bien, c'est important d'être fondé et établi dans la parole de Dieu concernant la guérison divine. C'est quelque chose, on doit être ancré et vraiment savoir que Dieu veut qu'on soit en santé parce que, vous savez, l'ennemi de vos âmes, il travaille 24 heures sur 24 pour vous nuire dans votre vie. L'objectif de l'ennemi, c'est de vous rendre malade, de vous décourager, vous appauvrir. Finalement, l'ennemi, il veut votre faillite dans la vie, il veut votre misère, il veut le pire pour vous. Mais Dieu, lui, il veut vous bâtir, il veut vous relever, il veut que vous soyez heureux et bénis et en santé. Est-ce que c'est des rêves dans le ciel? C'est la parole de Dieu, qu'est-ce que je vous dis ce matin. Mais il faut être exposé, il faut entendre le message, il faut que ça descende dans notre cœur à un tel point que quand c'est dans notre cœur, ça va sortir de notre bouche. Et au lieu de parler de vos maladies et toutes sortes d'affaires, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Ça va être le dépôt de l'esprit, le dépôt de la parole, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si votre cœur est vide, si vous n'avez pas la parole de Dieu, déposez là-dedans. Vous allez parler comme le monde normal. Mais vous savez, nous ne sommes pas du monde normal ici. Amen. On n'est pas normal. On est des enfants de Dieu. On est une race royale. Donc, si on est des enfants de Dieu et co-héritiers de Christ, tout ce qui appartient à Jésus-Christ nous appartient. Et Jésus est en pleine santé aujourd'hui. Il est au ciel en santé, dans la paix, dans la joie. Il n'y a rien de manquant, rien de brisé dans sa vie. Et ça nous appartient aussi comme enfants de Dieu ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement avoir un témoignage de Jean Pelletier qui va venir nous partager un petit peu comment, pourquoi lui, il croit que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors, je l'invite et puis ce matin, on va lâcher lousse. Que Dieu le bénisse.
Vous savez pourquoi que je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui? Parce que la Bible nous dit « croyez sans avoir vu ». C'est pas vrai. Dans mon cas, moi, c'est pas vrai. Ce que je voulais vous partager, je vais prendre un témoignage relativement récent qui se rapporte à l'Église. Voilà 2 ans à peu près, j'avais un problème de main. Moi, je joue la guitare, puis cette main-là s'engourdissait de façon là, assez pour dire « je sens plus rien en dessous ». Fait que ça va très, très mal pour jouer de la guitare. C'est comme essayer d'écrire, puis tu n'as pas de crayon. Là. C'était un peu le concept. T'sais. Je vivais ça. J'avais été guéri dans un temps de louange puissant. Une louange relativement ordinaire. On était 5-6 personnes, on louait le Seigneur simplement. Puis pendant ce moment-là, j'avais mes mains placées, puis une boule de feu qui est descendue dans mes mains. Et puis, pouf! J'ai été guéri, mais je ne le savais pas alors. Je l'ai su le lendemain matin parce que je me réveillais 3-4 fois la nuit parce que mon bras m'élançait. Là. Et le feeling que ça faisait, c'est comme tu rentres un couteau dans l'avant-bras puis tu le tournes. T'sais. Je me faisais raquiri dans l'avant-bras. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est que ça me réveillait la nuit. Fait que j'étais obligé de me mettre le bras en bas du lit comme ça. Fait que là, avec mon épouse, j'étais obligé de coucher à gauche. T'sais. Puis je dors bien mieux à droite. Fait que tout ça enchaînait ces problèmes-là. Et puis 2-3 fois par nuit, je me réveillais. Et ce moment-là, pendant cette réunion de louange-là, finalement, j'ai été guéri. Le lendemain, j'ai dormi toute ma nuit. Je me suis réveillé. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais même pas là pour prier pour ça. Seulement que la présence de Dieu, l'onction de Dieu est venue briser ce qui retenait ma main. Et puis ça, c'était dans un moment où ce que j'aidais une église à démarrer, où ce que je faisais la louange. Et puis, on arrive ici, on démarre l'église, ce phénomène me revient. J'ai le bras qui engourdit de façon extrême. Je joue 2 tonnes, je suis obligé d'arrêter. Je suis de même, je sais qu'il y en a de l'église qui ont souvent remarqué ça, là, j'étais de même, là. Tu sais, pour essayer de leur faire passer le sang dans mon bras. Et puis, je partage ça à Joël. Un mercredi, ta fille-là de gloire, on s'installe et puis on prie. Puis Joël me fait venir en avant et dit, ça va faire. On a pris autorité, ils ont prié sur moi. Et puis, je vous avouerai qu'à ce moment-là, je croyais encore les symptômes que j'avais, donc je me disais, je suis reparti chez moi et puis ça faisait encore mal. Mais je confessais, Seigneur, tu m'as guéri à la croix, j'accepte aujourd'hui que j'ai été guéri à la croix. Les symptômes, c'est le mensonge, la vérité, j'ai été guéri, tu me l'as prouvé dans le voir, blablabla, blablabla. Tu sais, je m'auto-brainwashing même. Là. Fait que, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es vrai, blablabla. Fait que, arrive un dimanche à l'église ici, puis là, j'anticipe le dimanche, je me dis, bon, aux 2 tonnes, il faut que j'arrête, parce que là, tu sais, il faut que je me repose le bras. Puis je suis en train de jouer, puis là, ça vient bien fort sur moi, puis je dis, là, j'arrête pas. Fait que j'ai dit, j'arrête pas, je continue à jouer, puis d'un coup, j'ai senti le feu rentrer dans mon bras, je vous garantis, là, c'est comme tout mon corps devenu chaud, là, ça fait, that's all. Fait qu'aujourd'hui, je témoigne de ça, mais j'ai plus aucune douleur dans mon bras. Je peux jouer comme je veux, quand je veux, le temps que je veux, à l'heure que je veux. Et puis, je remercie le Seigneur pour ça, parce que pour moi, c'est quelque chose de... Je peux même pas m'imaginer pas jouer de guitare, pas parce que je pense que je suis un bon joueur de guitare, mais juste parce que c'est ma vie, t'sais. Fait que je remercie le Seigneur parce qu'il prend soin de ce détail-là pour moi, t'sais. Je pourrais le louer pareil, le Seigneur, avec l'autre bras, t'sais, mais je suis tellement content de pouvoir le louer avec mes 2 mains maintenant. Fait que c'est tout ce que je voulais vous partager.
Merci, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Vous savez, comme Jean vient de parler ici, vient de témoigner, c'est que quand il a quitté, il sentait pareil. Et souvent, quand on prie pour quelqu'un, puis il se sent pareil, il quitte puis il dit, oh, finalement, j'ai pas été guéri. Mais c'est qu'on on croit pas qu'on est guéri parce qu'on a un feeling de guérison. Mais on croit qu'on est guéri à cause de la parole de Dieu.
Viens ici. J'ai oublié de faire une petite parenthèse, c'est que il y a une puissance dans le corps de Christ. Quand mes frères et mes sœurs se sont installés autour de moi, qui ont prié pour moi, là, ça ne pouvait pas faire autrement que de briser. Et puis, donc, je me devais de croire dans cette guérison-là. Merci.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va tourner dans la parole, dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Et vous allez au verset 15. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Vous savez, pendant l'école de guérison, on va parler de toutes sortes de mensonges, les traditions des hommes qui volent le corps de Christ de sa santé. On va parler entre autres de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Si vous avez des questions pendant que j'enseigne et vous dites « Ouais, mais là, il y a l'apôtre Paul, oui, mais Job », vous savez, on l'a lu ce passage-là, on a lu ces histoires-là dans la parole de Dieu, et c'est pas qu'on n'a pas remarqué ces histoires-là, mais il y a une façon de comprendre à la lumière de la parole de Dieu ces choses. Alors, on va parler des mensonges qui circulent dans l'Église, on va parler des traditions, on va parler de ce qui glorifie vraiment le Seigneur. Ce qui glorifie vraiment le Seigneur. La maladie ou la guérison. Quand les gens voyaient les gens guéris, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils glorifiaient le Seigneur ou c'est quand on voyait quelqu'un malade? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gloire à Dieu, des louanges au Seigneur quand on voyait une personne malade? Déjà, vous voyez dans quelle direction je m'en vais. Et comment s'approprier la guérison, les miracles et les guérisons progressives? Comment est-ce qu'on fait s'approprier ça? Et comment aussi relâcher la guérison dans la vie des gens? Est-ce que c'est juste pour les pasteurs, les évangélistes, ou est-ce que c'est pour le corps de Christ en général? On va voir toutes ces choses-là pendant l'école de guérison. Et Mathilde aussi, mon épouse, va contribuer à l'enseignement. Elle va venir partager des choses que le Seigneur met sur son cœur. Et puis, on va avoir d'autres témoignages également de guérison tout au long du mois d'octobre. Alors, vous ne voulez pas manquer aucune journée parce que c'est un temps où le Seigneur va bâtir la foi et vous établir dans la guérison. Et vous savez, moi, j'ai commencé à étudier la guérison divine. J'avais peut-être 18-19 ans. C'est à ce moment-là. Et il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'étudie la guérison divine parce que je suis malade et j'ai besoin d'être guéri. Et c'est souvent à ce moment-là où les gens commencent à étudier la parole concernant la guérison. Mais attendez pas ce jour-là. Vous devez vous établir même quand vous êtes en santé. J'aime mieux être établi avant que la maladie frappe. Pour comme ça, moi, je peux résister à l'ennemi. Vous savez, il y avait une femme avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Elle pensait qu'elle avait le cancer. Alors, moi, que j'ai fait? J'ai partagé la bonne nouvelle que Jésus voulait la guérir. Et puis là, elle dit, elle dit, c'est merveilleux, j'aime ça entendre ça. J'ai dit, est-ce que tu aimerais que je te prête des enseignements audio pour que tu puisses comme vraiment développer ta foi à ce niveau-là? Elle dit, oui, je veux tout ce que tu peux me donner, je veux savoir, je veux entendre ça. Alors, j'arrive après la fin de semaine pour lui remettre des cassettes d'enseignements sur la guérison. Et là, elle me dit, Joël, elle dit, finalement, c'est pas le cancer, c'est correct. J'ai dit, ben tu veux les écouter quand même? Non, ça m'intéresse plus, je suis correct là. Mais souvent, même dans le corps de Christ, on est comme ça. On attend de bâtir notre bateau quand c'est une tempête sur la mer. Mais c'est mieux de bâtir le bateau quand c'est paisible, n'est-ce pas? C'est plus facile, c'est moins difficile de résister l'attaque quand tout va bien que d'attendre quand le monde est en train de s'écrouler. Alors c'est précieux que vous êtes ici aujourd'hui parce que le Seigneur a choisi ce temps pour vous. Comme ça, vous allez être certain que Dieu veut que vous soyez en santé tous les jours de votre vie. Il n'y aura aucune tradition des hommes, aucun mensonge qui circule dans le corps de Christ qui va vous faire croire le contraire que de la volonté de Dieu. C'est tellement important. Alors, Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Ici, on lit ensemble, ça dit, « Puis leur dit, c'est Jésus qui parlait, qui était pour parler ici, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront gradué de l'école biblique. Non, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Donc, Jésus nous dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. Si on croit, c'est les signes qui sont supposés nous accompagner et c'est à ça dont on va se préparer à vivre aujourd'hui ensemble. Verset 19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Voyez donc, Jésus est parti au ciel et verset 20, « Il s'en alla prêcher partout. » Donc, les disciples s'en allaient prêcher partout. « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. » Donc, ici, on comprend, une fois que le Seigneur Jésus est remonté au ciel, nous comprenons que Jésus a remis l'autorité de guérir les malades à qui? À l'Église. Donc, nous, quand on voit quelqu'un de malade, on ne demande pas, « Seigneur, s'il vous plaît, veux-tu guérir telle personne? » Dieu nous a pas demandé de prier comme ça, mais on est appelé à commander à la maladie de quitter. Parce que Jésus nous a donné le mandat de faire ça. Jésus nous a donné le mandat de confier la responsabilité de guérir les malades et de chasser les esprits. C'est notre mandat comme croyants. Alors si on dit « Seigneur, fais les dons », Jésus nous répond « Je vous ai donné la responsabilité de le faire et c'est moi à travers vous qui le fais. » Comprenez-vous, c'est Saint-Esprit à travers nous qui guérit les malades. Donc ça, c'est une révélation parce qu'on peut passer toute notre vie et dire « Seigneur, pourrais-tu s'il vous plaît me guérir? Seigneur, pourrais-tu? » Et Jésus l'a déjà fait il y a 2000 ans. Donc, il faut avoir la révélation qu'on a un rôle à jouer. Et un autre texte que j'aimerais vous lire, c'est dans Matthieu chapitre 10 et versets 7 à 8. Jésus a dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. Donc ici, c'est notre responsabilité. Il dit « Guérissez les malades, même purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » Je n'ai pas eu le privilège de ressusciter des morts encore, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver un jour quand ça sera la volonté de Dieu. Vous savez, c'est toujours la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri, mais c'est pas toujours la volonté de Dieu que quelqu'un soit ressuscité d'entre les morts. Parce qu'on irait au cimetière puis on ressusciterait tout le monde, hein? Donc, il faut connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un est décédé, ben, ça se peut que c'était la volonté de Dieu que cette personne-là quitte. Comme vous savez, l'apôtre William Brown, le fondateur d'une église à New York City, il est décédé la semaine passée. Mon père est allé à ses funérailles. Et cet homme-là est mort dans la paix. Et c'est à son temps, c'est à son heure. Savez-vous comment il est mort? Il est mort couché dans son lit en dormant. Il n'était pas malade. Il était dans la paix. Et il a juste quitté son corps. C'est la façon que les chrétiens sont supposés de mourir. Dans la paix, dans la joie. Tout va bien. On a la présence de Dieu sur nous. Et on décide de quitter notre corps en pleine santé. Ça, c'est une belle mort, n'est-ce pas? De mourir en s'endormant. Moi, j'aimerais bien mieux ça que de mourir d'un cancer, n'est-ce pas? Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se renouveler dans nos pensées. Et dans Jean, chapitre 8, verset 32, ça dit que la vérité, c'est la vérité qui va vous affranchir. Savez-vous que la vérité de la parole de Dieu peut vous affranchir, mais elle peut faire une autre chose, vous choquer. Savez-vous, quand vous entendez une vérité qui n'est pas selon la tradition des hommes ou c'est pas la façon que vous avez été enseigné, ça se peut que ça va venir vous chercher et vous frustrer. C'est possible, parce que la chair n'aime pas nécessairement toujours se conformer à la parole de Dieu. Mais si vous recevez la parole de Dieu dit toujours vrai et Jésus a toujours raison. Jésus a plus raison que votre pasteur du passé ou des évangélistes à la radio. Jésus a toujours raison et les hommes, la parole de Dieu nous dit que tout homme soit connu comme menteur, mais Dieu dit toujours vrai. Amen. Donc déjà, on commence à bonne place, on passe de la pensée des hommes à la pensée de Dieu et on prend la résolution ce matin qu'on va croire uniquement à la parole et pas la tradition des hommes. Amen. Bon. Donc, Romains chapitre 12, verset 11. Là, la première chose qu'on va faire ce matin, simplement comprendre qu'on doit se mettre en position pour recevoir la guérison. C'est quelque chose qu'on fait ensemble ce matin en église. On va simplement se mettre en position pour recevoir la guérison de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 11, ça dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Soyez fervent d'esprit. Ça veut dire que votre esprit est engagé tout au long. Ça veut dire que quand je parle sur la guérison divine, vous pensez pas à votre Big Mac qui s'en vient, mais vous restez toujours engagé en esprit pour recevoir la parole de Dieu. Parce que j'ai la foi ce matin que même pendant que j'enseigne sur la guérison divine, que ceux qui sont malades vont être guéris même pendant l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est l'onction de Dieu qui est sur la parole de Dieu que vous recevez qui vous guérit. Alors, on peut prêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. J'ai déjà été dans une réunion où le pasteur prêchait 6 heures de temps, sans nous laisser même à la salle de bain. Pouvez-vous vous imaginer? Mais pendant ce temps-là, comme on reçoit la parole de Dieu, ça change nos vies et ça peut vous guérir ce matin. Si vous êtes dans l'expectative, si vous avez besoin, attendez pas à la fin de la réunion pour recevoir votre guérison. Recevez-la pendant que je prêche. Amen. Recevez par la foi. Amen. Donc, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on voit ici que ça prend un certain temps pour recevoir la main de Dieu. Des fois, ça prend pas de temps, beaucoup. On fait juste prier comme ça, une personne est guérie. Mais souvent, pour recevoir des choses autres qu'un miracle, ça prend du temps de notre part. Vous savez, on peut prier pour quelqu'un et la personne est guérie instantanément. Ça, c'est une guérison, mais c'est un miracle. Mais souvent, qu'est-ce qu'on vit dans le corps de Christ? C'est pas un miracle de guérison, c'est une guérison progressive. Et quand c'est une guérison progressive, ça prend le temps de recevoir la parole de Dieu, de bâtir notre foi pour recevoir ce que Dieu en réserve. Donc ici, il disait que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc constamment, on s'expose à la parole de Dieu pour recevoir notre héritage. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 23. Ici, c'est un passage bien important. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 23. Ici, il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À quelque part ici, Dieu est intéressé à votre santé, sinon il n'en parlera pas dans la parole, n'est-ce pas? C'est la santé, la parole de Dieu, comme vous la recevez, la Bible dit, c'est la santé pour votre corps. C'est la source de la vie. La parole de Dieu a la possibilité de vous affranchir, de vous délivrer de toute maladie, de toute oppression de l'ennemi. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu et d'avoir la parole dans nos vies. Amen. Donc, on va se donner le temps. On va se donner le temps ce matin. Et vous savez, je me souviens, j'ai entendu un témoignage l'autre fois. Il y avait une chère dame qui était en train d'écouter une prédication sur la guérison divine. Et celle qui enseignait, c'était Gloria Copeland. Et elle, quand elle enseigne sur la guérison, des fois, elle prêche 1h30, 2h. Et il y avait une pauvre petite madame qui était assise là, dans l'église, puis elle priait. « Seigneur, fais qu'elle arrête. Seigneur, fais qu'elle arrête de donner des versets. Seigneur. » Mais là, une bonne affaire qu'elle n'a pas arrêtée, Gloria Copeland a dit un autre verset. Et c'est ce verset-là que cette dame-là a reçu dans son cœur qui l'a guérie. Alors, aujourd'hui, on ne prendra pas 2 heures. Je peux vous le dire, même ça, on ne prendra même pas 1 heure ensemble. Mais on va prendre 4 heures, ou en tout cas environ ça, pendant tout le mois. Si on met tout ça ensemble, ça va vous donner environ 4 heures, et vous pourrez aller à la maison puis réentendre les paroles de Dieu sur vos vies. Mais vous savez, il faut se donner le temps. Vous savez, si vous allez à l'hôpital pour être guéri, pour avoir un médicament, peu importe, vous allez attendre dans la salle d'attente combien de temps? 2, 3, 4, 5, 8 heures. Il y en a qui ont attendu 10 heures. Vous savez, c'est ridicule comment on peut attendre. Mais des fois, ça vaut-tu la peine de donner à Dieu 1 heure, 2, 3 ou même 4 heures pour être en santé pour toute notre vie? Je pense que ça vaut la peine. Amen. Donc, on va s'établir, on va donner du temps à Dieu. Et une autre chose qu'on va faire, on va échanger notre tradition pour la vérité de la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 7, verset 13, Jésus a dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu. » Jésus parlait aux pharisiens ici. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Si dans votre cœur, il y a des traditions établies par l'homme qui ne sont pas de Dieu et qui sont fermement établies là, vous devez être prêt à renoncer à ces traditions-là pour faire l'échange avec Dieu. « Seigneur, je te donne ces vieilles traditions-là de mensonges pour recevoir ta vérité à place. » Et Dieu va se faire un plaisir de vous donner la vérité parce qu'il nous l'a déjà donné dans sa parole. Et dans Jacques chapitre 1, verset 6, il est écrit en parlant de quelqu'un qui demande à Dieu pour la sagesse, mais c'est un principe qu'on peut transposer dans n'importe quoi. Quelqu'un qui demande à Dieu pour la guérison ou personnelle ici, qu'est-ce qui se passe? Ça dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, vous voyez, si on croit Dieu pour la guérison divine, mais d'un autre côté, on a une tradition dans notre tête qui nous dit que Dieu nous envoie telle maladie pour nous enseigner ses voies. Comment pouvons-nous être établis dans la foi? Parce qu'on est en train de demander la guérison à quelqu'un qui nous rend malade dans notre tête. Voyez-vous comment c'est pas cohérent? D'un côté, on pense que c'est Dieu qui nous rend malade et de l'autre côté, on lui demande de nous guérir. Si c'est celui qui nous rend malade, il doit vouloir ça, là. Mais vous voyez, c'est pas biblique. Et ensemble, on va voir qu'est-ce que Dieu en dit. Et aussi, il y a des fois des gens qui vont dire, « Bien, moi, je crois que le Seigneur m'envoie telle maladie pour m'enseigner ses voies. Et je crois que c'est ça sa volonté. » Mais ces mêmes personnes-là vont aller voir un médecin, vont prendre un rendez-vous pour essayer d'enlever cette maladie. Mais si c'est un cadeau de Dieu pour vous enseigner quelque chose, pourquoi allez-vous voir un médecin pour faire enlever ce cadeau-là? Sérieusement, et pourquoi prenez-vous des aspirines pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Si Dieu veut que vous soyez malade, pourquoi prenez-vous des médicaments pour enlever la maladie? N'êtes-vous pas en désaccord avec la volonté de Dieu? Mais c'est tellement stupide qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. On est dans une religion et des traditions qui ne sont pas bibliques. Et aujourd'hui, on décide, on met de côté la tradition des hommes pour croire Dieu. J'aime mieux croire Dieu que quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc ici, on ne va pas annuler la parole de Dieu, on va croire la parole de Dieu. Dans Jérémie 1:12, ça dit, « L'Éternel me dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, si c'est écrit dans la parole, vous avez une base de confiance, vous pouvez avoir votre foi établie dans la parole de Dieu, clairement. Vous pouvez croire, Seigneur, tu as dit, et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Des fois, vous pouvez demander à quelqu'un, un homme, une femme, quelque chose, ils peuvent changer d'idée et puis vous dire, ah ben finalement, je ne ferai pas telle ou telle affaire que je me suis engagé à faire. Dieu ne fera jamais ça, il dira jamais, ben je me suis engagé à te guérir, mais finalement, j'ai changé d'idée. Non, Jésus, Dieu dit toujours la bonne chose, la vraie chose. Et dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11, il est écrit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Voyez-vous ici, c'est pour ça tantôt on a entendu Jean qui disait, même s'il y avait les symptômes de la maladie, même s'il ne se sentait pas mieux, il croyait que Dieu était pour accomplir et exécuter sa volonté de guérison. Et souvent, on perd notre foi, on vient découragé parce qu'on ne voit pas quelque chose instantanément et on est ébranlé. Mais aujourd'hui, si vous croyez la parole de Dieu, si vous vous dites, c'est vrai qu'est-ce que Dieu dit, malgré les symptômes, malgré qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, malgré mes émotions, Dieu dit toujours vrai et moi, je ne vais pas changer d'idée, je vais croire ce que Dieu dit, malgré les circonstances de ma vie. Là, vous êtes sur le bon chemin pour recevoir votre guérison. Amen. Matthieu 24, 35, ça dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, Dieu dit toujours vrai, « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Psaume 33, verset 4. Le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. » Donc, Dieu guérit juste par la proclamation de la parole. Simplement en entendant des versets de guérison, c'est en masse pour recevoir la guérison. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on a travaillé sur un disque audio où mon épouse Mathilde a lu plein de versets de la Bible. Pendant 45 minutes, elle lit des versets de la parole de Dieu. Comme ça, s'il y a des gens qui sont malades, que vous aimez, vous pourrez leur donner ce CD-là. Ils vont être couchés dans leur lit et entendre des versets de guérison. Et juste ça, c'est en masse pour amener la guérison. Il y a des personnes qui étaient dans le coma. Et là, les familles ont fait jouer un CD ou une cassette de guérison comme ça. Et les personnes se sont réveillées des comas. À cause, il y a une puissance dans la parole de Dieu. C'est vrai, dans Psaume 4, verset 20, et ça disait que justement, la parole de Dieu est la santé pour nos corps. Donc ce matin, jusqu'à date, c'est pas compliqué, on va croire Dieu. C'est le premier point, croire Dieu. La prochaine chose qu'on veut faire ce matin, c'est comprendre l'origine de la maladie. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, « C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc, on comprend que par le péché d'Adam, ou la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la maladie qui détruit le corps et qui amène à la mort, finalement, C'est une conséquence de la rébellion d'Adam et Ève contre la volonté de Dieu au début. Vous comprenez ça? Donc, c'est simple. La maladie, c'est relié avec la chute de l'homme. D'accord? Mais, bonne nouvelle, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, ça dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, nous avons été rachetés de la malédiction à cause Christ est allé à la croix, mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés et pour payer également pour notre guérison physique. C'est très important. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, une chose qu'on doit comprendre concernant le salut en Jésus-Christ, le mot « salut » dans le grec, ça nous parle de délivrance. Et souvent, quand on parle du salut, on pense que ça se réfère simplement au fait de passer de la mort à la vie. On va dire « Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? » Et là, si la personne dit « Oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie », là, on va dire « Ah, ben toi, tu es sauvé aujourd'hui. » Et c'est vrai, on est sauvé, on est en route pour le ciel, mais c'est le salut partiel. Il y a toute une dimension que Dieu veut sauver, et savez-vous, ça comprend tout l'homme, pas simplement son esprit. C'est vrai que quand on donne notre vie à Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, et oui, on est en route pour le ciel, mais Dieu se préoccupe également de nos corps et de nos âmes. Dieu s'occupe de toute notre personne. Et quand Jésus est allé à la croix, il a non seulement payé pour le pardon de nos péchés, mais il a également payé pour la guérison de nos corps. Et c'est des fois, les gens vont dire, oui, ben moi, je prêche juste le pardon des péchés et il y a un bonus, OK, la guérison divine. C'est un plus. Mais ce n'est pas un bonus, c'est autant un que l'autre. Ce n'est pas un sans l'autre. La guérison divine fait autant partie de l'œuvre de la croix que le pardon des péchés. C'est ensemble. On ne peut pas séparer ça. Parce que le salut, c'est la délivrance de l'œuvre de Satan. Donc, quand on est sauvé, on reçoit un héritage. Puis ça, c'est tout l'homme, là. Pas simplement le pardon de nos péchés. C'est pour ça ici, là, dans Galates 3, 13, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Si vous voulez savoir c'est quoi, dans Deutéronome 28, 15 à 62, ça nous donne toute la malédiction, toutes les maladies possibles qui pourraient venir sur nous. Mais Christ nous a rachetés de toutes ces choses-là, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, Jésus, quand il a été pendu au bois, quand il a été crucifié, Jésus a reçu la malédiction de Deutéronome 28. Il a reçu sur lui. Comme ça, nous, on n'est pas obligés de subir la malédiction de la maladie. Jésus ne veut pas qu'on soit malade. S'il voulait qu'on soit malade, il n'aurait pas payé le prix comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut qu'on soit dans la santé divine. Et vous savez, même dans le monde spirituel, moi, je crois qu'il y a de l'opposition ce matin pour pas que vous entendiez et receviez le message. Parce qu'il y a des choses qui ont été semées dans vos cœurs où vous avez entendu pendant des années que Dieu travaillait par la maladie. Et si aujourd'hui vous êtes en lutte, décidez dans votre cœur, moi je vais recevoir la parole de Dieu. Je laisserai pas l'ennemi me préoccuper dans mes pensées. Aujourd'hui, je veux croire Dieu. On va croire la parole ensemble. Et l'ennemi, je sais, ça le frustre, ça le dérange. Et les gens par l'Internet qui sont dérangés aujourd'hui viennent dire, moi, je crois Dieu, seulement Dieu. Amen. Donc, on voit l'origine de la maladie, c'est certainement par le péché. L'autre chose, l'origine de la santé, c'est en Jésus-Christ. On voit que Dieu a toujours été quelqu'un qui aimait la guérison. Dieu a créé Adam et Ève, c'était des gens en santé. Et on sait également que Dieu prenait soin de son peuple en Israël. On sait que même lorsque le peuple ont quitté l'esclavage en Égypte, ils ont quitté en pleine santé. Dans le psaume 105, verset 37, ça dit, « Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. » Il n'y avait aucune personne de malade dans le peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'esclavage. N'est-ce pas de quoi? C'est quelque chose qu'on devrait voir ici. À quelque part, Dieu était préoccupé avec la santé de son peuple. Et dans Exode, chapitre 15, verset 26, c'est dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc, Dieu, non seulement est-ce qu'il guérissait dans le passé, mais il guérit aujourd'hui parce que Dieu est celui qui nous guérit. C'est sa personne. Dieu, c'est un guérisseur. Et il y a des gens qui vont dire, oui, Dieu guérissait dans le passé, mais aujourd'hui, Dieu n'est plus intéressé à la guérison. Mais ça voudrait dire que tout d'un coup, Dieu a changé de personnalité. Et que tout d'un coup, il ne porte plus le nom, quand on retrouve la parole, Jéhovah Rapha ou Yahweh Rapha, qui veut dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Tout d'un coup, Dieu aurait changé de personnalité. Mais on va regarder ensemble, j'ai quelques noms de la parole ici, des titres du nom de Dieu qu'on va regarder ensemble. Et c'est les noms qui ont rapport avec la rédemption. Dieu se présente à l'homme avec ces sept noms-là. Yahweh Shammah, dans Ézéchiel 48, 35, ça dit, l'Éternel est ici. Donc, Dieu vous dit aujourd'hui, je suis l'Éternel qui est présent de vous. Croyez-vous ça aujourd'hui, qu'il est présent de vous? Amen, on croit ça. Il y a Yahweh Shalom, donc l'Éternel est notre paix. Amen, donc il est l'Éternel, notre paix, rien ne manquant, rien de brisé dans le shalom de Dieu. Yahweh Ra, psaume verset 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Il est notre berger ce matin. Donc ça c'est simple. Yahweh Jireh, dans Genèse 22, verset 14, ça dit l'Éternel pourvoira. Donc le Seigneur va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a Yahweh Nissi, Exode 17, 15. L'Éternel est notre bannière, notre vainqueur, notre chef. On croit ça et vous savez, il n'y a aucun théologien qui va contredire ces choses-là et dire, ben, aujourd'hui Dieu n'est plus Jéhovah Jireh, il ne prend plus soin de ses enfants. Mais pourtant, on va entendre beaucoup d'attaques concernant Jésus le guérisseur. On voit également Yahweh Tsekenu dans Jérémie 33, verset 16. L'Éternel est notre justice. Et finalement, Yahweh Rapha dans Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, se révélait à son peuple comme étant celui qui guérissait son peuple. Et vous savez l'histoire également, lorsque le peuple d'Israël regardait au serpent qui était sur la croix, ou pas sur la croix, sur le mot, là, c'est, je vais trouver ici, sur la perche. On voit dans Nombre 21, verset 9, ici que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Nous savons ici que Dieu avait dit à Moïse, tous ceux qui ont été mordus ont simplement à regarder à le serpent sur cette perche et ils vont être guéris. À quelque part, on voit que même dans l'Ancien Testament, Dieu était préoccupé avec la guérison de son peuple. Et dans Jean 3, 14 à 15, ça dit, dans le désert, Moïse a été élevé sur un poteau, a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Donc, le pardon des péchés, la guérison du corps faisait partie de l'Évangile. Et on comprend, quand on parle de l'expiation, on parle de l'œuvre de la croix, on sait, on entend parler souvent, mais il faut vraiment avoir la révélation dans nos cœurs que ça fait partie de l'œuvre de la croix pour nos vies. Que c'est pas simplement une provision future, mais la guérison divine est pour nous aujourd'hui. Donc, on a vu tous ces noms-là, et il n'y a personne qui va contester la présence et tous les attributs qu'on a vus. Mais il faut comprendre également ici là que Dieu veut qu'on reçoive Jésus ou Yahweh Rapha. Dans Ésaïe 53, on va regarder là ensemble, Ésaïe 53, c'est vraiment la base ici. Ce matin, on fait vraiment un enseignement de base pour vous aider à voir les racines. Parce que si on peut bien établir un fondement dans vos cœurs, par la suite, vous pourrez comprendre les autres choses de Dieu. Mais si on n'a pas la base, le fondement qui est des fois moins excitant, vous savez, quand quelqu'un construit une maison, c'est très rare qu'on se réjouit, on dit « Wow, quel beau fondement ». Mais s'il n'est pas là, c'est dommage, la maison va être ébranlée. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'établir avec des racines et plus tard, on ne sera pas ébranlable dans notre foi pour la guérison. Dans Ésaïe 53, et versets 3 à 5, ça dit « méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, on peut aller trouver le mot maladie, ce sont pour nos maladies qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Il y a des gens qui ont lu ce texte-là, des gens qui sortent d'un séminaire ou des professeurs, et puis vont dire qu'ici, on se réfère simplement à une guérison spirituelle. Et Dieu, Jésus n'a pas vraiment payé le prix pour notre guérison physique. Donc, ils vont dire que c'est seulement spirituel et on ne peut pas encourager les gens à s'approprier la guérison physique pour leur corps parce que ça ne se référait pas à ça. Mais vous savez, il faut vraiment avoir des lunettes d'un professeur du séminaire pour croire autrement que la parole. Parce que c'est tellement clair dans d'autres passages que ça se référait à la maladie physique. Mais imaginez si vous permettez à quelqu'un de vous voler ce texte-là et de ne pas croire. Moi, l'autre fois, j'ai entendu un témoignage glorieux. C'était un frère qui ne croyait pas au don du Saint-Esprit en opération pour aujourd'hui. Et ce frère-là était malade, il avait un mal de gorge et puis il avait été atteint par une maladie. Et ce frère-là, en tout cas, il disait à son église, il était rendu à un tel point où il ne pouvait quasiment plus parler. Il parlait comme ça, c'était vraiment pas beau. Et là, il disait à son église, je vais devoir quitter le ministère, je vais devoir abandonner le ministère parce que je ne peux plus vous enseigner, je n'ai plus la voix pour vous enseigner. Et l'église, ils ont dit, non, on va te garder, on t'aime, on va endurer la voix, tout ça. Et puis, c'est un frère qui croyait pas, comme je vous enseigne aujourd'hui, ne croyait pas que l'œuvre de la croix avait payé pour nos maladies. Et puis, on a l'enregistrement que j'ai pas ce matin, mais peut-être dans une autre semaine. On l'entend enseigner sur la guérison divine. Et puis, il enseignait comment Jésus n'avait pas payé pour notre guérison divine. Et il est là en train d'enseigner comme ça. Et tout d'un coup, comme il parle comme ça, il commence à parler normalement. Et tout le monde, ça faisait 5 ans au moins, qu'il n'avait pas parlé normalement. Et toute l'église, on entend le monde pleurer, le monde crier dans l'église parce que Dieu l'avait confondu. Il est en train de dire Dieu n'avait pas guéri à la croix, mais c'est faux. Jésus a pleinement payé le prix pour notre guérison et Dieu l'a confondu. Et je trouve ça merveilleux d'entendre un témoignage comme ça. Jésus l'a payé et Jésus sait se défendre. Quelqu'un, il ment à son sujet. Jésus dit, non, écoute, hey, j'ai payé un gros prix. Je veux que mes enfants soient guéris. Et puis Jésus a contredit l'homme. Amen. Donc ici, dans Matthieu 8, versets 16 à 17, écoutez bien ceci. C'est dit, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, qu'on vient de citer, là. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, même dans ce passage-là, même dans Matthieu, on a une confirmation que c'était bel et bien un paiement pour notre guérison physique. On parle d'infirmité ici, on parle de maladie. C'est pas spirituel, certainement Dieu se préoccupe de l'esprit, mais c'est pas limité à l'esprit. Donc, voyez-vous, et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, ça dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, l'œuvre de la croix a pleinement payé pour notre guérison. Si on ne croit pas ça, on n'a pas de base pour prier pour les malades, on n'a pas de base pour recevoir la guérison divine. Et une autre chose, si la guérison ne faisait pas partie de l'œuvre de la croix ou l'œuvre d'expiation, mais pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Moïse de mettre un serpent sur la perche pour représenter l'œuvre de la croix plus tard? Vous savez, Jésus avait porté toutes les maladies, Jésus a porté tous les péchés sur la croix et ce serpent-là représentait justement tout le péché et la maladie. Pourquoi est-ce que Dieu aurait dit à Moïse de faire ça s'il n'y avait aucun paiement à la croix? Ça serait ridicule, il n'y aurait aucun but. Mais heureusement, aujourd'hui, on croit que oui, Jésus a pleinement payé le prix pour nos guérisons. et Jésus est celui qui nous guérit. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Amen. Donc, si vous dites amen, déjà, vous êtes plus loin que la majorité des chrétiens. Parce que tout un monde spirituel, tout un monde chrétien aujourd'hui qui croit simplement dans la guérison spirituelle de l'être humain. Mais si on croit, comme je viens de vous enseigner, que Dieu est préoccupé avec vous à tous les niveaux, ça veut dire que déjà là, Dieu peut faire plus de choses dans nos vies. Parce que Dieu est limité par la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors on se positionne aujourd'hui puis on dit « Seigneur, moi je crois la parole de foi aujourd'hui. Je crois que tu as pleinement payé pour moi à la croix. Je crois dans ta provision. » Alors je ne peux pas dire « Seigneur, tu m'as juste pardonné de mes péchés et tu n'as pas payé pour ma maladie. » Mais non, tu as payé pour les deux. Donc je suis aussi bien de savourer les deux ensemble. Amen. Donc Jésus est celui qui guérit. Et on voit que dans le cœur de Jésus, il avait été oint du Saint-Esprit dans Luc 4, verset 18 à 19. Ça dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ici, c'est les paroles de Jésus. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, c'était l'onction de Dieu, l'onction qui reposait sur Jésus, dont nous avons en dedans nous, parce que nous avons l'Esprit de Christ en dedans nous. Et si nous avons Christ en nous, nous avons son onction. Donc, vous aussi, vous êtes loin de Dieu pour guérir les malades. Croyez-vous ça ce matin? J'ai l'onction de Dieu pour guérir les malades. Donc, c'est pas réservé à des élites, ou un élite plutôt, quelqu'un qui est à télévision, et on va dire, ah ben lui, il peut faire des miracles, ou lui, il peut avoir une onction de guérison sur sa vie. Non, c'est pour tout le monde. C'est absolument pour tout le monde. Vous êtes appelés, Dieu vous appelle aujourd'hui de devenir quelqu'un qui va guérir les malades. Ce n'est pas réservé pour une classe élite, c'est pour tout le monde et on doit y croire. Parce que nous avons l'onction de Dieu et l'onction de Dieu demeure en nous. Et voyez ce que Dieu, Jésus faisait. Dans le ministère de Jésus, on voit une chose. Dans Actes 10, 38, c'est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Déjà là, avec ce verset-là, on voit que la maladie, c'est l'œuvre de l'empire du diable. Mais Jésus allait, il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, vous êtes appelés à faire comme Jésus et de marcher dans ses mêmes traces et de guérir les malades. Parce que vous avez son onction aujourd'hui. Mais là, il y en a peut-être qui vont dire, « Ouais, mais c'est toujours la volonté de Dieu? » Il y en a des fois, vous savez, j'ai prié pour telle personne, elle n'a pas été guérie, donc peut-être Dieu voulait venir la chercher. Avez-vous déjà entendu des réflexions comme ça? Bon, qu'est-ce qu'on va croire? La parole, on va voir ici. 1 Jean 3, 8. « Le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, qu'est-ce qui est rattaché avec le royaume de l'ennemi? Ou qui fait partie de l'empire de Satan, je peux vous dire que ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Donc, si Jésus, son but, c'était de détruire l'œuvre de l'ennemi, certainement, ça veut dire qu'il était là pour détruire la maladie également. Donc, on croit ça. Et une autre chose, ceux qui sont des réguliers ici, ils savent. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Vous croyez ça ce matin? Donc, celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire, est-ce que c'est Jésus? Non. C'est simple? Ah, c'est simple. Mais celui qui est venu nous donner la vie, c'est Jésus. Dans 3 Jean 1, 2, ça dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Après, prêcher toute une prédication là-dessus, on ne peut pas prospérer dans notre corps plus que notre âme prospère, nos pensées, notre volonté, nos émotions. Mais Dieu ici nous dit, « Je veux que tu sois en bonne santé. » Et bonne santé dans le grec, ça veut dire bonne santé. Non, mais c'est pas compliqué. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Toute grâce excellente, tout cadeau de Dieu, c'est bon. C'est ça que ça vient nous dire. Puis il n'y a ni changement ni onde de variation. Dieu n'est pas bon un jour puis mauvais lendemain. Dieu, il n'est jamais de mauvaise humeur. Dieu est toujours bon. Il n'est pas comme nous. Dieu ne change pas d'idée. Une journée, il est fin, puis une autre journée, « Ah, oh, il s'est levé sur le mauvais bord du lit. Aujourd'hui, il va rendre tout le monde malade. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, Dieu est toujours bon. Mais comment est-ce qu'on peut savoir, vraiment discerner si c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit guéri? Mais écoutez bien, Romains 12, 2, ça dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. La maladie qui vient vous détruire, est-ce que c'est bon? Non. Non, c'est pas bon. Donc, volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Quand un cancer est en train de vous manger l'estomac, est-ce que c'est agréable? Non, c'est pas bon. Donc, c'est pas parfait non plus, parce que Dieu veut nous bâtir. Mais celui, par exemple, qui veut vous rendre malade, là, c'est qui? C'est le diable. Il vient vous voler, vous égorger, vous détruire. Et les gens vont dire, oui, mais ça, c'est Dieu. Et dans sa souveraineté, Dieu, il fait des choses qu'on ne comprend pas. C'est vrai, il y a des choses qui font qu'on ne comprend pas, mais certainement, Dieu ne va pas aller à l'encontre de son paiement. Si Jésus a payé le plein prix pour qu'on soit en santé, pensez-vous que tout d'un coup, il va changer sa recette et dire, rendons tout le monde malade à cette heure, comme ça, ils vont être plus sanctifiés. Non, la parole de Dieu nous dit qu'on est sanctifiés et on est conduit dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu, pas par le cancer. Le cancer n'est pas l'école du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous guide dans toute la vérité. C'est par son onction. C'est pas par un cancer. C'est pas par la tuberculose. C'est pas par toutes sortes d'affaires. C'est pas par la grippe aviaire ou une autre sorte de grippe qu'on va se rapprocher de Dieu. Il y a quelqu'un que je connais qui a été malade dans son corps. Une chrétienne lui a dit, c'est quoi que tu as appris de Dieu? Rien. J'avais rien à apprendre. C'était pas l'école du Saint-Esprit. Une chose qu'on peut apprendre, c'est que l'ennemi nous aime pas et que par ma foi en Jésus-Christ, je sais que Dieu a vaincu l'ennemi. C'est ça qu'on peut apprendre, que l'ennemi est sous nos pieds. Une des choses, par exemple, comment est-ce qu'on peut vraiment, vraiment être certain que Dieu veut qu'on soit guéri? Parce que si on ne croit pas que Dieu veut qu'on soit guéri, on n'est pas à bonne place. Si on pense que peut-être Dieu veut qu'on soit malade, on va vraiment être confus. On va avoir de la misère à prier pour quelqu'un. Parce que, admettons que quelqu'un, tantôt, on va prier pour des gens ici, là. Quelqu'un est malade, et là, je prie. Ouais, mais peut-être, dans le fin fond, Dieu veut que tu sois malade parce que, tu sais, là, on voit, là, tu manques les nerfs, ou comment qu'on dit, tu pognes les nerfs pas mal souvent, puis je pense Dieu, là, il est en train de te façonner, là, hein, puis on pourrait penser comme ça dans le fin fond de la tête. Comment qu'on peut vraiment, vraiment savoir que Dieu veut qu'on soit guéri? Comment est-ce qu'on peut savoir? On a simplement à regarder le ministère de Jésus. Est-ce que Jésus ferait quelque chose qui était contre la volonté de Dieu? Non, parce que Jésus était Dieu, OK, il est Dieu. Dans Jean 5, verset 30, ça dit, « Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Jésus faisait toujours la volonté de Dieu. Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Donc, on a simplement besoin de voir qu'est-ce que Jésus faisait. On peut voir que, waouh, Dieu, Jésus voulait certainement la guérison et il veut encore la guérison aujourd'hui. Dans Matthieu 8, 2 à 3, c'est dit, « Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et dit, « Je suis en train de travailler dans ta vie. Le reste de même, un petit peu plus de lèpre, finalement. La gloire de Dieu va sortir. Reste comme ça. Tu vas voir, mon frère, tu comprends pas. C'est un divin mystère. Tu comprends pas, mais je suis en train de faire des choses dans le secret, là. » Ça, c'est l'évangile de Satan. Jésus, lui, c'est pas ça qu'il a dit. Écoutez bien. C'est que j'étais rendu. OK. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il n'a pas embarqué dans toutes sortes de discours et dit des niaiseries, la tradition. Il dit, « Je le veux, sois pur. » Je t'ai inspiré un autre texte. Je vais vous lire un texte, là. Dans Jean chapitre 9, écoutez bien, savez-vous pourquoi on croit toutes sortes d'affaires erronées? C'est parce que des fois, là, non seulement il y a la tradition, mais des fois, il y a des mauvaises traductions dans la Bible. Dans Jean chapitre 9, écoutez bien, on va lire ça quelques versets ensemble. Vous n'êtes pas endormis encore, personne, là? Jean 9, ça dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, là, je vous lis dans Louis II. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Selon cette traduction-là, il est malade. C'est afin que, à travers la maladie, que Dieu soit glorifié. Puis, on lit ce texte-là, puis ça a l'air d'être vraiment ça dans la Louis II. Moi, je suis allé voir dans le grec, parce que je trouvais ça. Ah, ça contredit tout le restant de la Bible. Je ne comprends pas. Je suis allé voir dans le grec, et Louis II s'est trompé. OK, dans Jean chapitre 3, je vais vous lire comment c'est vraiment. Ça dit, Jésus répondit, là, les disciples sont là, c'est-tu lui ou ses parents? C'est la faute de qui, dont la maladie? Puis Jésus n'a pas dit, ouais, ben c'est ses parents. Oh, c'est ce gars-là, il n'était pas correct. Non, c'est pas ça que Pantin, il dit, parce que en plus, la question, qui a péché, cet homme ou ses parents? Parce qu'il y avait même des gens à l'époque qui croyaient dans la réincarnation, c'est-tu lui dans une autre vie? Comment ça, il est malade? Blablabla. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Les mots « cet afin » ne font pas partie du texte. C'est des additions dans votre Bible. Donc, Jésus n'a pas répondu, « c'est afin que… » C'est pas ça. Il a dit, « pas lui ou ses parents que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » Il ne répondait même pas à la question, c'est comme, « ça n'a pas rapport qu'il soit guéri. » Ça change toute notre interprétation du texte, n'est-ce pas? C'est pour ça, des fois qu'on lit des textes, puis ça semble contredire qu'est-ce qu'on croit au sujet de Dieu. On peut aller vérifier, puis voir, c'est-tu vraiment la parole? C'est afin que, là, c'est malheureux, mais le cet afin ne fait pas partie du texte. Wow, je dois continuer. Dans Matthieu 6, verset 9 à 10, ça dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Et Dieu nous dit comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans l'Apocalypse 21, verset 4, ça dit, « Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses sont passées, ont disparu. » Gloire à Dieu. Donc, Jésus guérissait tous ceux qui croyaient sans exception. Sans exception, Jésus guérissait toujours tout le monde. Il n'a jamais dit à quelqu'un dans la parole, on ne retrouve jamais une place où Jésus a dit non à quelqu'un. Matthieu 4, 23, 24, ça dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Matthieu 9, 35, ça dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » C'est simple. On a juste à suivre le modèle de Jésus. On n'a pas besoin de beaucoup de discernement. C'est-tu ta volonté, toi? Peut-être pas toi. Jésus guérissait tout le monde. Tout le monde qui croyait, Jésus disait oui, je le veux. Amen? Comme un mariage. Oui, je le veux. Si vous demandez, Jésus, veux-tu vraiment guérir de ça? Oui, je le veux. Mais savez-vous, dans le corps de Christ aussi, on a dit, oui, Jésus guérissait dans le passé et il voulait, mais maintenant, Jésus n'agit plus de la même façon et puis Jésus ne veut plus vraiment guérir tout le monde. C'est drôle comment Jésus change toujours dans nos églises. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que si Jésus était compatissant et miséricordieux dans le passé, il est encore compatissant aujourd'hui. Il n'y a pas de, comment qu'on dit, de diverses personnalités. Il ne change pas comme ça. Jésus ne change pas. Matthieu 14, 14, c'est dit, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » La compassion, des fois, on parle juste le pardon des péchés. Oh, Jésus est rempli de compassion pour nous. Oui, mais sa compassion le poussait à guérir les malades. Est-ce que tout d'un coup, Jésus, c'est un sans-cœur? Il était rempli de compassion pour les gens. Il voulait guérir les gens quand il était ici sur la terre. Et tout d'un coup, il serait plus compatissant. Il aurait plus la charité, l'amour pour les gens. C'est un signe de son amour, voyez-vous. Et si nous sommes les représentants de Jésus, nous devons avoir cette même compassion de Jésus dans nos cœurs qui nous pousse à prier pour les malades. Voyez-vous? Ça fait partie de notre appel. Psaume 145, versets 8 à 9, ça dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » C'est qui il est, là? « Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Êtes-vous la création de Dieu aujourd'hui? Oui, moi, je fais partie des créatures de Dieu. Dieu est bon envers moi. Dieu est bon envers vous aujourd'hui. Et dans Hébreux 13, 8, ça dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Gloire à Dieu. Je crois tout ça, moi. J'espère que vous le croyez aussi. Voyez, à date, là, et je n'ai pas terminé, je vais essayer de faire ça rapidement, mais on doit vraiment établir des choses ce matin. Je sais, c'est un petit peu plus d'informations que peut-être qu'à l'habitude, mais si on donne pas ce temps-là au Seigneur pour établir ça dans nos cœurs, on va être chambranlant. Et je veux pas que vous soyez malades. Dimanche prochain, on veut avoir plus de monde. Amen. On veut que ceux qui sont malades qui soient ici, et on veut que les mêmes qui sont en santé aujourd'hui, qui soient encore là la semaine prochaine. Amen. Maintenant, on va regarder ensemble la Sainte Cène. Dans quelques instants, on va prendre la Sainte Cène ensemble, la communion. Et vous savez, quand on prend la communion, c'est pas un rituel religieux. Quand on prend la communion, on se rappelle l'œuvre de la croix. Et oui, certainement, on se rappelle que Jésus a payé pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Mais on se rappelle également que Jésus a été brisé pour la guérison de nos corps. Et savez-vous qu'il y a des gens, simplement en prenant la communion, qui ont été guéris? Parce qu'ils se rappelaient qu'est-ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, si vous êtes malade dans votre corps, on va prendre la communion et je vais m'attendre que Dieu va vous guérir à ce moment-là. C'est quelque chose, mais faut comprendre ici que c'est quelque chose de saint et c'est une puissance de Dieu que Dieu nous donne. Dans 1 Corinthiens 11, 23, 32, ça dit, je vais lire de la Bible du Semeur. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « C'est ici mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Demain, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée par mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez et souvenez-vous de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Et ceci jusqu'à son retour. Mais on va dire, mais pourquoi on veut annoncer la mort du Seigneur? On n'aime pas mieux annoncer sa résurrection? C'est pas ça qui est le plus important à quelque part? Non, ici, savez-vous pourquoi c'est important? Vous annoncez la mort du Seigneur? Parce qu'on se rappelle, on se remémore l'œuvre de la croix. Et c'est à la croix que le pardon de nos péchés ont été payés. Et c'est à la croix que nos maladies ont été payées également. Donc, quand on prend la communion, on prend notre guérison également. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne reconnaît pas le corps de Christ? Vous savez, Jésus a été puni pour nos péchés. Il a porté le jugement divin. Sans la foi dans son œuvre, la punition du péché demeure. Verset 27, ça dit, « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement à lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. » Vous vous rappelez de l'histoire d'Ananias et Saphira dans la parole. « Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » Et nous savons ici, là, quand c'est la dernière chose possible pour amener une personne, le jugement repose sur une tête d'une personne qui ne reconnaît pas l'œuvre de la croix. Mais si on reconnaît l'œuvre de la croix, au lieu de vivre un jugement que Jésus a déjà porté, qu'il ne veut pas qu'on porte, on peut s'examiner nous autres-mêmes et réaliser que oui, je crois dans l'œuvre de la croix. Oui, je crois que ce que Jésus a fait pour moi, c'est pour moi. Mais si on ne reconnaît pas l'œuvre de la croix, on passe à côté de quelque chose de glorieux. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment là, c'est une révélation qu'on a besoin. Et dans Jean 16, verset 13, ça dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et cette vérité-là que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que l'œuvre de la croix, c'est pour tous les enfants de Dieu et c'est pour le monde perdu. Si seulement on veut croire. Et par la suite, on a un héritage. Savez-vous? C'est pas simplement d'être guéri une fois, mais c'est de vivre en santé et de vivre longtemps. Dieu veut que vous viviez longtemps. Alors, en terminant, je sais que je suis plus long que d'habitude, mais je veux le finir. On n'est pas pressé, on n'est pas en urgence. Hein? Je vais vous lire quelques versets qui vous disent comment Dieu veut que vous viviez longtemps. Amen. Moi, ça me fait plaisir. On va regarder Proverbe chapitre 3, versets 1 à 2. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 2. Donc, on reçoit la guérison, on reçoit la santé divine et on reçoit une longue vie. Proverbe 3, versets 1 à 2, ça dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. » Est-ce que vous voulez une longue vie dans la paix, dans la joie, dans la santé? Rappelez-vous des enseignements de Dieu. C'est tout. C'est ça qu'il dit. N'oublie pas mes enseignements. Dans le psaume 103, vous connaissez? Psaume 103, on va regarder ensemble. Vous savez, Dieu, là, il est tellement plus fin que les êtres humains. Parce que les êtres humains nous disent toutes sortes de choses. Et on dit toutes sortes de choses au sujet de Dieu. Et je pense que si les gens parlaient à mon sujet comme on parle de Dieu, moi, je serais insulté. Si les gens disaient, ben, Joël, il donne le cancer à ses enfants, il leur donne des piqûres de maladies pour les dresser. Hein? Il fait toutes sortes d'affaires comme ça. Moi, je serais vraiment blessé, je serais insulté profondément si vous m'accusez de faire des choses atroces comme ça. Mais pourtant, on dit ça au sujet de Dieu, comme si rien n'était. Dieu fait ci, Dieu fait ça. Attention, il faut faire attention à la réputation de Dieu. Il faut protéger qui il est. Il ne faut pas assassiner son caractère. Dieu, c'est un bon Dieu. On ne parle pas comme ça dans mon Père. Si vous voulez, vous savez, il y a des chrétiens qui parlent comme ça de leur Dieu, puis ils disent, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu me donne des accidents de taux, Dieu fait... Mais c'est qui ton Dieu? Ben, le Dieu de la Bible. Non, je m'excuse, c'est pas le même Dieu qu'on sert. Moi, mon Dieu, il fait pas ça. Mon Dieu est un bon Dieu. Moi, je pense que ça attriste le cœur de Dieu quand on dénigre sa personnalité, quand on dénigre son caractère. Mais on pense qu'on est libre de le faire. Non, savez-vous, là, on n'est pas libre d'attaquer qui il est, puis qu'est-ce qu'il fait. On peut pas dire que les œuvres de Satan, c'est les œuvres de Dieu, puis que Dieu, ça ne dérange pas. Hein? Si vous faites défoncer chez vous, vous faites voler dans votre maison, puis là, vous dites à toute l'église, « Mais là, le pasteur Joël, il est venu chez nous, il a défoncé dans ma maison, il est parti avec ma TV, mon VCR, tout le kit. Mais c'était pas moi, c'est un bandit. Je serais insulté si vous m'accusez de faire ça. Mais on fait la même affaire avec Dieu. L'ennemi vient nous voler, nous égorger, nous détruire. C'est Dieu. C'est de la faute à Dieu. Non, c'est pas la faute à Dieu. C'est la faute du diable. C'est pas compliqué. Diable, quand c'est quoi qui vient nous détruire, là? On sait tout de suite la source. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et là, tout de suite après, regardez qu'est-ce qui suit. Qui guérit toutes tes maladies. Ensemble. C'est encore un package deal, c'est un forfait divin. C'est pas un sans l'autre. Il vous pardonne, il vous guérit. Amen. Mais il dit, n'oubliez pas ses bienfaits. Vous pouvez oublier que ça vous appartient, puis là, tout d'un coup, croire que Dieu veut que vous soyez malade. Oubliez pas ça. C'est pas le fun d'être malade. OK. Et dans Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. Écoutez bien. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, il faut marcher dans l'honneur avec nos parents. Et Dieu dit qu'on va vivre longtemps. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc, vous pouvez vous rendre jusqu'à 120 ans et être en pleine forme. Ben là, c'est à Moïse. Oui, après, pourquoi pas? Pourquoi pas croire pour 120 ans en santé, par exemple? Pas 120 ans dans une chaise roulante puis en douleur. Non, non. 120 ans en santé. Pourquoi pas? Dieu ne fait pas d'exception de personne. Caleb, ça en est un autre. Josué 14, 11. Il dit, quand Caleb avait 85 ans, il dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Pas simplement pour me rendre là, dans la terre promise, mais je peux même revenir, puis je peux me promener, je peux me combattre. Je suis assez fort. Psaume 103, on vient de le lire. Psaume 91, verset 16. « Je le rassasirai, celui qui connaît le nom de l'Éternel et qui se cache sous l'ombre du Très-Haut. » Ça dit, « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. » C'est ça qu'il dit. Un autre verset, Ésaïe 40, verset 29 à 31. « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Êtes-vous toujours fatigué, enfant de Dieu? Prenez ce verset-là. Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Dieu vous dit ça. Dieu ne changera pas. « Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. » Je veux encore vous porter, il dit, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 58, verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le psaume 92, 13 à 15, car les justes poussent comme le palmier et s'élèvent comme un cèdre du Liban, bien planté dans ta maison. C'est pas quelqu'un qui vient à l'église une fois ou six mois, mais il est bien implanté dans ta maison.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.